Joachim Lafosse, bonjour, très heureux de vous retrouver. Votre film Un silence sort ce mercredi 24 janvier, enfin,
oui.
Tant qu'on en parle.
On y est.
Vous écrivez beaucoup et vite, et je me suis demandé finalement, le manuscrit...
Non, j'écris pas vite, j'écris beaucoup. Et je travaille beaucoup. Non, mais c'est parce que, évidemment, en Belgique, on sait ça. C'est vrai que j'ai fait 10 films en 20 ans. Mais je pense vraiment que je travaille beaucoup. Et peut-être plus que mes voisins cinéastes et collègues cinéastes. Vraiment. Et j'écris jamais tout seul. Donc, c'est aussi ce qui me permet de remettre le travail à l'ouvrage plus facilement. Mais j'écris beaucoup, mais pas vite. Jamais. Et jamais deux films en même temps, par exemple.
Le silence ici, c'est, vous l'aviez déjà dans la tête ou dans votre tiroir de
en 2016.
Ouais. Ça fait quand même.
J'ai commencé
pas mal
à l'écrire
temps,
en 2016 et il a fallu du temps pour trouver le point de vue juste en fait. Je suis passé par le point de vue de tous les personnages du film pour finir par trouver celui qui me semblait convenir.
La remarque et suggestion d'Emmanuel a été déterminante ?
Oui, absolument. Il y a deux termes. Enfin, finalement, dans sa dernière version, d'écrire et de tourner le film dans le point de vue d'Astrid, la mère de famille, de ce fait divers qui m'a inspiré un silence. Cette mère de famille, ce personnage de cette mère de famille est inspiré par ce fait divers. Mais. Il y a deux choses qui m'ont amené à ce choix. Il y a peut-être d'abord, mais ça, deux moments cruciaux qui arrivent en même temps en fait. Il y a Emmanuel qui m'invite à penser plus ce personnage, et puis il y a quelqu'un de mes proches, qui m'est très proche, qui m'a appelé et qui m'a dit. En 2020, juste après le tournage de Saint-Tranquille, alors que je reprenais l'écriture d'un silence, qui m'a dit qu'elle venait de voir
Élève libre.
Et que
2009.
Et qu'elle était très émue et me demandant comment j'allais, s'excusant de ne pas avoir vu le film plus tôt. Et cette personne est quelqu'un qui aurait pu, lors de cette adolescence que j'ai décrite dans Élève libre, qui aurait pu me protéger. Mais qui n'a pas pu le faire et qui, je crois, a été bouffé par la honte de ne pas avoir pu me prévenir, me protéger. Et honte que moi, j'ai connue aussi à la sortie du film en 2009, puisque je crois que ce que j'espérais avec Élève libre, c'était que les gens qui m'ont connu adolescent reconnaîtraient ce que j'y raconte. Et au fond, ce que j'ai observé, c'est que ces gens, parfois, quand je les croisais après la sortie, c'est plutôt qu'ils changeaient de trottoir. Donc... c'est là que je me suis rendu compte après Les Intranquilles que peut-être qu'un des axes les plus intéressants de l'écriture d'un silence, c'était la honte d'Astrid. Et qui est aussi un peu la mienne. Et en même temps, ce que j'ai aussi voulu faire, c'est écrire un film en faisant le pari que spectateurs et spectatrices avec moi pourraient rester en empathie avec cette mère de famille et ce fils, malgré la gravité du silence d'Astrid et la gravité du passage avec de Raphaël.
Il y avait le choix aussi de la comédienne qui était déterminant quand même.
Alors j'ai toujours voulu travailler avec elle, sauf qu'il y a un moment où elle m'a dit non, dans la première lecture. Mais elle, tout en me laissant une chance, c'était en me disant « mais tu peux continuer à travailler et je relirai ». Ce qui a été le cas, et puis elle m'a suivi.
Alors, est-ce que vous estimez que maintenant, c'était le bon moment pour vous, pour exprimer ce que vous aviez au fond de vous? Vous sentiez que le public allait être enfin à l'écoute?
Ah, c'est une bonne question. Parce que ce que j'ai observé en 2009, c'est que le public, une partie du public, ne comprenait pas le sens des limites que j'essayais de faire entendre avec le film. Mais en fait, c'est d'abord la trajectoire d'un film. Porter un film pendant tant d'années, c'est d'abord, il faut un profond désir. Donc ça doit être profondément intime. Je pense que les choses se sont passées comme elles devaient se passer. Je ne pouvais pas le faire plus tôt. Et puis, j'ai pas envie de... Je vous raconte comment j'en suis arrivé là à l'écriture finale avec ce point de vue là du film, mais en fait mon histoire, j'ai pas envie de dans une logique de pathos au fond intenable, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu c'est que comme spectateur ou spectatrice, vous puissiez avec Astrid et Raphaël vous demandez vous ce que vous feriez dans une situation comme celle-là, est-ce que vous auriez réussi à parler ou pas. C'est de mesurer et de sentir au fond ce que ça peut avoir de terrible, cette honte qui peut bouffer quelqu'un qui, à mon avis, est d'abord une victime et aussi quelqu'un qui n'a forcément pas eu et si on y réfléchit, qui n'a manifestement pas la force et l'estime d'elle-même ou la confiance en elle pour pouvoir parler. Le déni, c'est pas un choix. Ça vous prend.
C'est quand même sociétal, quand même, non ?
Le déni ? Je sais pas. Non, ça, c'est vraiment... Moi, je crois pas. C'est-à-dire que, oui... Alors là où... Oui, c'est sociétal dans le sens où Astrid vient d'une génération où ça l'était. C'était bien de pas parler. Même de garder le silence, de le préserver, d'en prendre soin, de le protéger. C'était une valeur.
C'est sociétal. Et un confort bourgeois.
Et c'était, c'est sociétal parce qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Et que, mais c'est touchant de voir que la fille d'Astrid Caroline, elle parle. Elle n'a pas été muselée par sa mère. Et c'est même elle qui vient dire à sa mère, maman, il faut que tu parles. Ça, cette rencontre entre ces deux générations de femmes, c'est quelque chose qui m'a... J'ai beaucoup aimé écrire ça.
Il y a vous disiez, la famille est en danger, mais aussi elle est source de danger. Et à ce propos, il y a cette scène de la danse entre Astrid et Raphaël qui m'a complètement bouleversé.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, en Belgique, je pense que l'affaire Dutroux, elle a fait de nous d'autres Belges. On a changé avec l'affaire Dutroux. Et je pense que l'affaire Dutroux est au cœur des changements sociétals qu'on vit aujourd'hui, 30 ans après. C'est-à-dire qu'on est passé d'une crainte d'un prédateur isolé et qui a engendré des interrogations sur la manière dont on accompagne les victimes, sur le travail de la police, etc. Enfin, des choses très importantes. Mais on en arrive 30 ans plus tard, au fond, à la compréhension et la découverte qu'il y a beaucoup plus de chances d'être victime d'une criminalité sexuelle à l'intérieur de sa propre famille que dans la rue. Et ça, cette introspection que ce constat engendre, je trouve ça sociétalement vraiment très intéressant. Et ce qui est fou avec l'affaire Issel qui m'a inspiré le film, c'est qu'en fait, on retrouve cette histoire-là, cette trajectoire sociétale dans l'affaire.
Mais vous allez même encore plus loin, c'est en faisant de Raphaël un adopté. Donc il y a le problème des gènes aussi qui n'existe pas. Donc on va au-delà, entre guillemets, de la famille de base.
Mais évidemment, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a probablement un souhait collectif de s'interroger sur le sens des limites et des interdits avec lequel on a vécu pendant des siècles, probablement sans très bien mesurer leur importance. L'interdit de l'inceste, le respect des générations. Tout le monde sait que c'est la loi porte cet interdit en Belgique. Mais et dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier. Mais on ne mesurait pas l'aspect fondateur de ces lois. Et je crois qu'aujourd'hui. C'est quelque chose que j'ai observé en 2009. C'est qu'en fait, quand je montrais Élèves libres, il y a une trop grande partie du public qui voyait dans ce film la possibilité de dire l'éloge du libertinage, de l'apprentissage par la queue, d'une jouissance que si on est un peu différent des autres, plus intelligent ou plus pourvu d'un plus grand savoir, qu'on peut peut-être s'autoriser. Et ça, aujourd'hui, évidemment, ça ne passe plus. Mais tant mieux. Et en fait, du coup, d'où cette envie à travers le film et cette histoire de famille de dire au fond que la criminalité sexuelle elle n'est pas génétique, elle est culturelle. C'est parce que dans cette maison de l'avocat Scar, il y a un homme qui ne s'empêche pas que du coup, il y a un fils qui ne s'empêche pas. Mais quand un adulte s'empêche, il permet à un enfant ou à un adolescent de devenir à son tour un enfant qui s'empêche. Et ça, c'est fondateur. Et c'est exactement ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui et d'interroger et de soutenir.
C'est fou. Est-ce que, avec le recul, enfin, si vous avez encore un minimum de recul à ce stade, ce film a eu un élément cathartique et finalement plus profitable pour vous que vos 25 ans d'analyse trois fois par
semaine? Non. Alors, c'est très, très intéressante question. Je peux faire ce film
parce que
il y a 25 ans d'analyse. Ah non. Et je n'aurais jamais fait ce film. Tout comme. J'ai pu traverser les difficultés. Élève libre, c'était le fruit d'une révolte. Et peut-être que j'étais pas tout à fait prêt parce que ça a été très douloureux après. Mais heureusement qu'il y a l'introspection de la psychanalyse pendant des années après et qu'il y avait eu déjà avant. Parce que sans quoi. J'aurais été impudique, probablement. Et que le sujet que je traite là, il nécessite une pudeur et une sobriété que l'impudeur vient abîmer. Et quand on parle que de soi, c'est-à-dire, j'ai pu laisser de la place à Astrid et à Raphaël et aux êtres qui m'ont inspiré ces personnages parce que je peux, grâce à la psychanalyse, me décaler un peu et ne pas être que sur moi.
En parlant d'être sur soi, vous avez quand même, avec Jean-François Hensgens, collé la caméra au comédien.
Ouais.
C'est pour nous faire rentrer.
En fait, c'est étonnant. Mais vraiment, je vous assure, pas que. Parce qu'il y a des plans larges, des moments où on s'éloigne.
On commence fort.
Et plus que tous les autres. Ouais. Mais on commence avec Emmanuel, avec elle. Mais par contre, on les quitte, mais quand on revient vraiment avec eux.
Ouais.
Et on essaye, par la mise en scène de nos choix, de cultiver cette empathie que le public peut avoir avec ce qui se joue d'horrible pour ces victimes que sont Raphaël et Astrid, d'abord et avant tout. Avant d'être une complice, Astrid, c'est une victime. Elle n'a pas décidé que ce crime existe dans cette maison. Si elle avait eu le choix, elle l'aurait refusé. Et elle est prise par enfin, comment on pourrait appeler ça ? Une sidération qui l'empêche de parler. Voilà. Mais la question du pourquoi de cette sidération et de cette difficulté de parler, c'est une question très importante.
Cette alchimie entre vos comédiens, que ça soit Leïla, Damien, oui. Que ça soit Bérénice, oui. Cédric, et ici Emmanuel DeVos avec Daniel Auteuil.
Le point commun, c'est les répétitions.
C'est ça.
C'est la répétition. C'est
cette alchimie, ça vous vient en disant éclair de génie, je veux dire, ça.
Non, c'est
ça
du travail.
Tout de suite,
c'est du travail. C'est 10 jours de travail à répéter tout le film avec les acteurs avant d'aller tourner dans le décor. J'ai la chance d'écrire des huis clos, donc c'est possible de répéter dans le décor. Si vous faites des films avec 25 décors et des scènes de cascade, etc., c'est difficile de répéter. Mais en ce qui concerne les sujets qui m'occupent, c'est possible.
Et vous avez senti, ça y est, ça, la mayonnaise.
Oui, ça tout de suite. Mais je l'avais vu dans L'Adversaire déjà. Mais oui, ce qu'il y a surtout, c'est d'instaurer un climat de travail protecteur et sécurisant qui laisse et qui permet aux acteurs d'avoir confiance et donc de créer avec moi, d'élaborer, d'écrire avec moi. Ce sanglot que Emmanuel retient. C'est pas moi qui l'écris, c'est elle. La manière d'étouffer une respiration, la manière de raccrocher et puis d'être dévasté, c'est pas au scénario que ça s'écrit, ça. C'est Emmanuel qui écrit ça. La façon d'être si charmant, si séducteur, malgré la perversion, ça, c'est Daniel qui l'écrit. C'est pas, moi, je peux pas l'écrire scénario, ça. C'est pas sur le papier. Donc, c'est une collaboration. C'est un sport collectif, le cinéma.
Dernière question hein, qui concerne la musique. Vous avez travaillé avec David François Moreau. Première collaboration, non ? Non ?
David François Moreau ?
Non, ce n'est qu'il avait participé à la composition.
Je dis ça, Betty.
Non. Elle est... qui a composé là ?
Il y a TEPR.
Ouais.
Johan Johansson, Olafur Arnald.
Ah, oui.
C'est des compositions pas originales.
Pas originales.
Meridi. Mais non, je vais pas travailler. C'est pas grave, ça arrive. Voilà.
Vous avez revu Jeanne Dilban?
Ah oui, oui, mais moi, c'est. J'ai fait Élève libre qui est. Il y a 60 plans. Pas Élève libre. Dans Nue propriété, le film que j'ai fait avec Isabelle Huppert, il y a tourné en 2006, il y a 60 plans. Il y a des plans dans la cuisine d'Isabelle qui mange, etc. Complètement inspiré par Jeanne Dilban.
Ouais,
et par Ackerman. Bien avant qu'elle soit ce qu'elle est. Enfin, c'est-à-dire que ça a toujours
que
été.
Que le film soit reconnu comme.
Voilà, comme ce qu'il était. Moi, j'ai. On doit notre liberté de cinéaste, d'auteur de films à réessayer, comme on dit, en grande partie à Chantal Ackerman et à Jeanne Dilban.
Joachim, un grand merci. On rappelle merci. Un silence le 24, voilà. Enfin.
Oui.